L'audience est ouverte.
L'audience est ouverte, vous pouvez vous rasseoir. Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien et notre ami Philippe Arbouche, maître Philippe Arbouche, pour vous accueillir dans cette émission qui vous donne à revivre des grands dossiers judiciaires, mais qui nous permet aussi finalement de réfléchir à la justice, au fonctionnement de la justice en France, qui est extrêmement fin, subtil. On va encore s'en apercevoir aujourd'hui, puisqu'on va parler du doute.
Le doute. Oh,
le doute, c'est vraiment... c'est l'horreur, c'est l'épouvante, finalement.
C'est la pierre angulaire de, oui. de... Avec le doute, on est sur l'erreur judiciaire, on est sur le cas de conscience, on est sur ce que tout un chacun peut craindre, d'être pris pour un autre dans une affaire invraisemblable.
C'est le cauchemar de tout le monde, c'est le cauchemar du prévenu, c'est le cauchemar de l'avocat,
du juge, mal jugé, oui, bien sûr. Oui. Alors, dit comme ça, effectivement, si on avait des doutes pour tout, on pourrait jamais avancer. Mais là, on a choisi ensemble deux dossiers.
Deux belles affaires.
Dans lesquelles on a voulu les traiter un peu sous l'angle du doute. On peut les traiter sous un autre angle, bien sûr. Mais c'est l'affaire Cesnec et l'affaire Dominici.
Deux grandes affaires qui ont été portées d'ailleurs à l'écran. On peut revoir les films, ça.
On peut voir les films. Oui. C'est bien fait. Alors, Cesnec, on va commencer par Cesnec.
Allez, affaire Cesnec, qui n'est toujours pas résolue.
Ah non, toujours pas. Ah non, on ne sait pas. Ça, c'est pour ça que ce sont des affaires emblématiques, parce que le doute continue au fil de dans les années. Alors, on est au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et il y a un commerce très lucratif qui s'est mis en place avec du matériel civil que les Américains, Première Guerre mondiale, que les Américains ont laissé sur place et n'ont pas pu remporter. Et notamment, il y a de très belles voitures, des Cadillacs, qui sont restées en nombre. Et ce sont de très belles voitures, et un certain nombre d'hommes d'affaires les achètent pour les revendre à la Russie bolchevique, qui a besoin de voitures, qui a besoin de beaucoup de choses, et de voitures entre autres. Mais l'un d'entre eux, qui est d'ailleurs conseiller général du Finistère, appartient au Parti catholique libéral, et il ne peut pas traiter avec des bolcheviques qui sont les représentants de Satan.
Mais il en a très envie.
Il a très envie, sans doute, de gagner de l'argent. Bon. Alors, il prend un prête-nom qui s'appelle Monsieur Guillaume Cesnec, qui est un monsieur qui est propriétaire d'une scierie. Bon. Donc, c'est Cesnec qui, officiellement, vend les Cadillacs. Et donc, on est en mai 1923. Et Cesnec et Kemener montent à Paris, comme on dit, pour vendre un lot de véhicules américains. La voiture dans laquelle ils sont n'atteindra jamais Paris.
Ah oui.
Et il revient quelques jours plus tard à Morlaix, Cesnec, et il dit « la voiture est tombée en panne vers Oudan, et Kemener a préféré continuer seul et en train ». Bon. Et puis le temps passe, la famille n'a pas de nouvelles de Kemener, et le 10 juin, donc les faits sont passés le 23 mai, le 10 juin, la famille prévient la police. Et c'est l'inspecteur Bonny.
Oh là là.
L'inspecteur Bonny, dont on sinistre personnage par la suite, dont on retrouvera les agissements lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais...
Toujours dans les coups fourrés, et les plus sales coups fourrés.
Oui. Alors, à l'époque, Bonny est très populaire, il n'est pas encore le sinistre personnage qu'on aura par la suite, il est très populaire, donc sans doute prend-il, je dirais, très à cœur cette affaire. Et on trouve qu'il y a quand même de grandes présomptions contre Cesnec d'avoir fait disparaître Kemener. Notamment, il y a un télégramme, soi-disant de Kemener, qui est adressé à sa sœur, qui dit « je ne rentrerai pas, tout va pour le mieux », etc. Or, la signature est une signature très mal imitée. Donc, c'est pas Kemener. Puis on trouve la valise de Kemener à la gare du Havre, ce qui n'a pas grand-chose à voir
c'est
avec...
C'est pas le vraiment sur le trajet.
C'est pas vraiment le trajet. Et donc, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais le 1er juillet, Sesnek est arrêté. On ne trouve pas le corps de Kemener. Mais à ce moment-là, coup de théâtre, un commerçant du Havre reconnaît sur des photos qui sont parues dans la presse Sesnek, qui est venu lui acheter une machine à écrire d'une certaine marque. Bon. Alors là, donc là, on est dans le roman, hein, on est dans l'enquête. Après, ça devient du roman peut-être, mais en tout cas, c'est de l'enquête. Et il y a une perquisition qui est faite à la maison, dans la maison de Sesnek, et on trouve la machine à écrire qui a servi à dactylographier l'acte de vente. Le soi-disant acte de vente qu'on a retrouvé dans les affaires de Kemener dans sa valise au Havre. Donc ça fait...
Là, c'est un élément assez troublant.
C'est un élément assez troublant. Et on ouvre le procès le 24 octobre. Notez quand même, 24 octobre, des faits qui datent du mois de mai. Aujourd'hui, il faudrait bien 3 ans pour démêler tout ça. Là, on est quand même dans l'extrême rapidité.
Ça veut dire que la justice avait plus de moyens à l'époque ?
Ben, j'en sais rien, mais entre mai et octobre, ça a quand même été vite. Alors peut-être ça a été un peu trop vite dans le cas présent. On n'a peut-être pas cherché beaucoup plus loin. Mais bon, enfin, petite aparté. Le procès s'ouvre au mois d'octobre. Et dans l'acte d'accusation, on dit qu'on n'a jamais retrouvé le cadavre de Kemener, mais que ces éléments-là, notamment la machine à écrire, est un élément très important. Alors, si nous étions en Grande-Bretagne, on ne pourrait pas juger un accusé quand on ne retrouve pas le corps de la victime. Oui. Là, on a un assassinat possible sans cadavre.
On a une disparition, finalement.
C'est une disparition. Et Sesnek, en fait, commet des fautes, des erreurs qui vont lui être totalement préjudiciables, puisqu'en fait, il cherche à s'évader de prison. Bon, ça fait toujours mauvais effet. Et il essaie d'acheter des faux témoins pour avoir des alibis.
C'est pas terrible.
Non, c'est pas terrible. Les experts disent que c'est bien la machine à écrire qui a servi à dactylographier. Et Sesnek fait une très mauvaise impression sur les témoins. On a un témoin de la défense qui arrive. Je vous donne tout le détail, hein, parce que c'est intéressant de voir comment le doute s'installe. C'est un receveur de tramway parisien, qui s'appelle Leher, qui a discuté en breton avec Kemener le 26 mai. Je vous rappelle que les faits se sont passés le 23 mai, donc le 26 mai. Et donc, il a discuté en breton avec lui. Donc, le 26 mai, Kemener était encore vivant, ce témoin le prévoit. Mais, enfin, l'indique. Mais Ratipax Leher serait un mythomane et sa déposition est déclarée irrecevable.
Alors, il était réellement mythomane, oui, c'est ce qu'on. C'est avéré, quoi.
Alors, c'est intéressant parce que, sauf erreur de ma part, la fille aînée de Sesnek, alors que son père est au bagne, puisqu'il finira au bagne, elle épouse le receveur de tramway, qui en fait est un personnage peu recommandable et violent, qui martyrise sa femme et qui finit d'ailleurs... elle finit d'ailleurs par le tuer de trois coups de revolver.
C'est quand même, vraiment, mais quelle affaire à tiroir.
C'est une famille, c'est épouvantable.
Faut pas les emmerder, les
Non, Sesnek. Vous rendez compte, la femme de ce Sesnek, qui est suspectée quand même de quelque chose d'abominable, pardon, sa fille aînée, je suis en train de dire une bêtise, la fille aînée épouse le principal témoin qui était déclaré mythomane, dont on a pas retenu la déposition, et le dit témoin est peut-être mythomane, mais en tout cas est suffisamment violent pour que la fille de Sesnek tue le gendre. Bon, tout ça c'est quand même terrible. Et le procureur appuie, sa, enfin l'avocat général appuie son argumentation sur la faiblesse de l'affaire, sur la personnalité de Cesnec, et la défense s'appuie sur l'absence de cadavre.
L'absence de cadavre, oui.
Il est reconnu coupable et il est condamné à travaux forcés à perpétuité.
Et a posteriori, ce jugement, est-ce qu'il vous étonne, vous ?
Non, pas vraiment, pas vraiment. Alors, il faudrait se remettre dans le contexte de l'affaire, mais effectivement, quand on a comme ça une situation dans laquelle on n'a pas de certitude, oui. Hein, puisqu'on en revient au doute, on n'a pas de cadavre, on n'a pas de témoin direct, on n'a pas de témoin, etc. Les jurés doivent quand même, oui, prendre une décision en leur intime conviction. Et donc, en fonction, intime conviction, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce que chacun d'entre eux ressent. Mais le président leur rappelle qu'il faut qu'ils examinent les charges contre l'accusé et ce qu'a dit la défense. Alors là, intervient une notion qui sert un petit peu à toutes les sauces, mais qui est intéressante, c'est la notion de faisceau d'indices. Oui. On peut avoir un doute sur quelqu'un, parce qu'à faute de preuves, il n'y a pas une seule preuve.
Il y a quand même la machine à écrire.
La machine à écrire, c'est un élément qui va constituer un des éléments, oui, du faisceau d'indices. C'est-à-dire que, vous le savez aujourd'hui, combien, on le sait parce que les expertises se sont améliorées, combien les experts peuvent se tromper, combien les objets matériels peuvent dire une chose. Vous avez, j'ai connu, moi, dans mon activité professionnelle, des experts qui vous assuraient absolument à la barre et en toute bonne foi que tel objet avait servi à telle chose, et il était démontré que cela n'était pas possible. Donc, la parole des experts est une parole extrêmement importante, mais ce ne sont pas eux qui jugent. D'ailleurs, les magistrats, les juges le rappellent. C'est pas l'expert qui fait la décision. Simplement, quand on vient vous dire que la machine à écrire, c'est sans doute à 90% celle qui a servi à faire tel papier que Cesnec dit n'avoir jamais frappé. Ça fait beaucoup.
Ça suffit à faire pencher la balance.
Ça fait pencher la balance. Et donc, Cesnec, je vous rappelle, se comporte mal en plus. Hein. Mal, c'est-à-dire, il se défend mal. Voilà, il n'est pas habile. Bon. Donc, il passe 2 ans au bagne. Il essaie de se sauver une nouvelle fois. Il est transféré à l'île du Salut, proche de l'île du Diable. Mais c'est un ancien juge d'instruction qui reprend à son compte l'affaire Kemner. Et il apprend que l'équipage d'un dragueur de sable croisant devant la propriété de Kemner a entendu tirer 2 coups de feu. Donc, il se serait passé quelque chose dans la propriété de Kemner. Des coups de feu ont été tirés. En tout cas, il y a un autre juge d'instruction qui reprend l'affaire. Bon, on est en 1923, le temps passe. Monsieur Bonny, lui, aide la Gestapo à traquer les résistants. Il est fusillé à la Libération. Donc, on émet des doutes sur l'honnêteté de l'enquête qu'il a faite, et pour cause. Et une mesure de grâce spéciale est accordée en 1947 à Cesnec qui débarque au Havre où sa famille l'attend. Il meurt 7 ans plus tard. Alors, il meurt 7 ans plus tard sans avoir obtenu sa réhabilitation judiciaire. Il est écrasé par une camionnette.
D'accord. Alors, il est écrasé, mais il n'y a pourtant rien de bien nouveau, à part ces coups de feu hypothétiques.
Non, mais le fait de ne pas avoir eu de cadavre. Oui. Le fait d'avoir eu cette déclaration du contrôleur des tramways, du receveur de tramways, le fait que ce soit qu'à ce point on n'ait aucun élément matériel aurait dû profiter, oui, à l'accusé.
Oui, le doute profite toujours.
Le doute profite à l'accusé. Sans doute que la machine à écrire a été un des éléments déterminants pour que les jurés se disent, ben non, il y a peut-être un doute, mais la machine à écrire, j'en sais rien, je ne suis pas dans la tête des jurés, certainement pas à ce procès à cette époque. Mais notre principe en droit français, c'est le doute profite, oui, à l'accusé.
Et aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, où Kemner est passé. Le petit-fils de Guillaume Cesnec, Denis, oui, Cesnec, a été extrêmement actif.
Oui.
Il a essayé de
d'avoir la réouverture du procès, et ça n'a jamais été accepté.
Ça n'a jamais été accepté.
Il faut des éléments nouveaux que sans doute la Cour n'a pas considérés comme suffisants.
Et puis il est bien tard maintenant, ça c'est certain.
Oui. Mais on est à une époque, vous savez, où les cold cases j'aime bien dire le mot un peu comme ça, ridicule, les affaires refroidies sont à la mode, donc on ressort avec des éléments nouveaux. Bon, Seznec, ça m'étonnerait. Hein.
Dans notre cher petit Bayonne, il est une peña, la peña Bayona. Portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. À Daxo, à Narbonne, on ne voit plus que ces gars-là qui ont dans le cœur le cher joueur du rugby roi.
Voilà, avec cette petite musique du sud-ouest jouée par l'aviron bayonnais, nous retrouvons le prétoire et nous retrouvons le doute. Et oui, nous sommes habités par le doute. Aujourd'hui, dans cette émission, l'audience est ouverte avec Philippe Arbouche. Nous évoquons deux grandes affaires qui ont défrayé, qui continuent d'ailleurs de défrayer la chronique et dans lequel le doute a joué un rôle prépondérant. En première partie d'émission, nous avons donc évoqué l'affaire Seznec et eh bien, nous allons parler de Gaston Dominici, l'affaire Dominici. Ouais. On voit tout de suite la moustache de Jean Gabin.
C'est ça, c'est ça, voilà, c'est ça. On est un peu, notre vision de l'affaire Dominici est un peu faussée par le patriarche qu'incarnait magnifiquement Gabin. Ouais. Cet homme silencieux, on peut pas dire retors, mais dont on ignorera toujours ce qu'il a réellement dans la tête, avec, en plus, si j'ai bonne mémoire s'agissant du film, l'aspect clanique de la question,
fait, oui.
Tous ces gendres.
Le clan des Dominici, c'est ça.
C'est ça. D'ailleurs, on parlait du clan Dominici ouais. à l'époque, en 1952, et quand il comparait en 1954, on parle du clan Dominici. Ouais. Ces gens-là ne parlent pas. Alors, ce ne parle pas parce que ce sont, non pas parce que ce sont des professionnels de la délinquance.
Non, hein, ce sont des paysans.
Ce sont des paysans, on ne parle pas. Le vieux Dominici, on va l'appeler comme ça, Gaston, était berger de son état, et c'était sans doute un homme très silencieux. Donc, on a autant de témoins dans cette affaire que de gens et des déclarations vraies ou fausses et ouais. des rétractations. Et là où c'est intéressant, c'est de regarder sous le prisme et sous l'angle du doute, ouais. effectivement.
Alors, le crime, lui, est odieux.
Le crime est odieux.
Peut-être le rappeler parce que...
C'est une famille anglaise qui est assassinée sur les bords d'une route de Haute-Provence en 1952. Et c'est une affaire abominable. Monsieur et Madame Drummond et leur fille sont assassinés à l'aide d'une arme à feu. La fillette a reçu plusieurs coups de crosse, etc. Bon, donc c'est abominable. Donc c'est une affaire qui secoue évidemment l'opinion publique et on peut le comprendre. Et puis on a Gaston, alors le vieux, qui comparaît devant la cour d'assises car il est dénoncé par son fils Gustave. Donc Gaston, c'est le vieux, Gustave, c'est le fils. Gustave qui dénonce son père comme étant celui qui aurait fait ça. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi il l'aurait réellement fait.
Ah oui, un vieux paysan.
Oui, parce qu'ils étaient sur le bord de son champ. Alors faire attention, hein, parce que le film ne nous met pas dans l'erreur, mais disons, nous indique des pistes, etc., etc. Je pense que c'était un petit peu moins romanesque que ça. On n'a jamais véritablement trop su. Pourquoi, si Gaston l'avait fait, il aurait fait ça. Bon, peut-être parce qu'on était sur son champ. Bon,
c'est pas un crime sexuel, je veux dire.
Alors non, ce n'est pas un crime sexuel. Ce n'est pas un crime de vengeance. Les gens ne se connaissent pas. C'est le crime d'un fou, d'un moment de folie, de quelqu'un qui. Dont on ignore le pourquoi. Enfin, on n'a pas plus d'informations de ça. Mais c'est Gustave qui dénonce son père. Donc, pour faire...
Jolie mentalité.
Pour faire à la mode, on dirait bonjour l'ambiance. Les repas de famille devaient être sympathiques. Gaston le vieux... Donc Gustave dénonce son père, Gaston. Gaston le vieux passe aux aveux. Et c'est là où c'est intéressant aussi, parce que quand on a le doute, souvent ce doute est levé par le passage aux aveux. C'est souvent ça, le juge dit, ou le procureur dit, mais vous avez avoué. Or, on sait très bien maintenant, et avec la science, notamment toutes les expertises psychologiques et relatives à la santé mentale de la personne, qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'auto-accusent.
Oui.
Avec une facilité.
Généralement, ce sont des récidivistes. Ils viennent, on les voit arriver au poste de police.
Oui, alors il y a ceux qui s'accusent de tout.
Oui.
L'archiduc François-Joseph. Mais il y a aussi ceux qui s'accusent dans une procédure précise. Ils auraient pu faire la chose et finalement, ils s'accusent. Alors, on a bien sûr des accusations qui viennent de... une forme de maltraitance policière.
Les aveux extorqués, c'est ça.
Les aveux extorqués. Alors, maltraitance, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement en état de faiblesse, des policiers un peu convaincants, des gens un peu faibles, etc. Bon. Là, on n'en sait rien. Il avoue. Et donc, on passe à la cour. Gustave, d'ailleurs, le fils qui a dénoncé, est lui-même jugé parce qu'il serait passé près du cadavre de la fillette qui était encore vivante et il ne l'a pas sauvée. Donc, il est condamné pour une forme de non-assistance à personne en danger. Alors, Gaston ne comprend pas bien les questions. Il répond à sa manière de paysan de 1953 de Haute-Provence, c'est-à-dire sans doute un peu causant. Il est habitué à se taire, donc tout le monde se tait. Et donc la pièce principale de l'accusation, c'est les aveux de Gaston et le témoignage de sa famille. Or, les témoins ont plusieurs fois changé d'avis. Gustave, notamment, a accusé son père, il s'est rétracté, puis après il l'accuse de nouveau. Le vieillard, estime qu'à un moment donné, il dit même avoir eu des rapports sexuels avec Madame Drumont, alors que ce n'est pas le cas. C'est à tout le moins étrange.
Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il brouille les pistes, là, finalement.
Est-ce qu'il brouille les pistes ? Est-ce qu'il ne sait pas exactement où il est ? Est-ce qu'il dit n'importe quoi pour en finir plus vite ? Enfin, on ne sait pas. Mais on ne peut pas reconstituer vraiment les mobiles du crime, si ce n'est des mobiles alors psychologiques. Alors du coup, là, on en vient à des grandes considérations psychologiques sur le paysan, taiseux, qui... donc on brode, je dirais,
autour
de ça.
On est dans la caricature.
Voilà. Il est prostré, il est condamné à mort. Et ses avocats ne s'avouent pas vaincus. Au moment où on prononce la sentence, alors je ne sais pas si c'est au moment même ou quelques instants après, l'accusé revient sur ses aveux et dénonce Gustave et son petit-fils. En gros, dit « je me suis tué pour
protéger
à la place de ». Ce qui est assez fréquent dans ces affaires-là. Et puis, il y a un autre procès, mais on n'a aucune nouveauté, on rien du tout. Et finalement, Dominici est gracié par le général de Gaulle en 59. Sa peine est remise et il finit sa vie dans un hospice en 1967.
On peut trouver bizarre d'ailleurs qu'un vieil homme puisse comme ça assassiner trois personnes sans être arrêté à un moment ou à un autre, soit par l'homme, soit par... C'est assez curieux.
C'est assez curieux. Et là, pour revenir à notre interrogation du début, c'est ce doute lui a-t-il profité ? Le doute sur le caractère frustre, son caractère sans doute frustre. On a exploité à fond la psychologie un peu retors du vieillard qui le clan Dominici qui domine la famille, etc. Mais en fait, on n'a rien de sûr. D'ailleurs, il y a à l'époque Roland Barthes qui dans Mythologie a fait tout un article sur l'affaire Dominici en disant que tout le procès Dominici s'est joué sur une certaine idée de la psychologie qui se trouve être, comme par hasard, celle de la littérature bien pensante. Les preuves matérielles étant incertaines ou contradictoires, on a eu recours aux preuves mentales. Et où va-t-on les prendre ? Dans la mentalité même des accusés. On a reconstitué des mobiles, un enchaînement. On a fait comme les archéologues qui vont ramasser des vieilles pierres. Et on dit, ça c'était à l'époque 2, etc. Et en fait, on n'a aucun élément. La psychologie du vieux Dominici, est-ce que c'est vraiment la sienne ? On n'en sait rien. C'est peut-être la psychologie du président de la Cour d'assises ou de l'avocat général.
Ah, oui.
C'est Roland Barthes qui dit ça. Ah. Et c'est intéressant parce que, finalement, ça résume bien ces affaires de doute où l'on charge, où on fait un transfert sur l'accusé ou sur la victime, parfois. Et ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que ça ne devrait pas être comme ça. Oui. C'est-à-dire que toujours le doute devrait profiter à l'accusé. Oui. Toujours, toujours, toujours.
Je me souviens qu'on avait évoqué la piste d'un crime, une histoire d'espion.
Oui, il y a même eu des histoires d'espionnage. Drummond était venu. Il y a eu ça, effectivement.
Mais finalement, ça a été abandonné.
Alors, moi, j'en sais rien. Je ne suis pas dans le secret des dieux et de la police. Mais ce qu'on note quand même, si vous voulez, à travers ces deux affaires emblématiques, Cesnec et Dominici, c'est que là où le doute aurait dû profiter, même avec des indices, mais ces indices étaient-ils suffisants, oui. Eh bien le doute ne leur a pas profité. Cesnec a la machine à coudre,
la machine à écrire.
Et Dominici, il y a les aveux.
Oui. Mais pas d'arme du crime d'ailleurs.
Non.
Pas d'arme du crime,
Non, 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 des aveux. Ouais. Des aveux d'un vieillard.
Ouais.
Et puis le témoignage de son fils qui se rétracte, qui revient, etc. C'est maigre hein, quand même pour condamner quelqu'un à mort. Hein.
Est-ce qu'avec l'avènement de la police scientifique, par exemple, l'erreur judiciaire est plus rare?
Oui, elle est. En tout cas, quand il y a véritablement des recherches sérieuses qui sont faites, on a aujourd'hui les moyens de vérifier un certain nombre de choses qu'on n'avait certainement pas à l'époque.
Ouais.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, faut pas prendre non plus, ça c'est un peu mon cheval de bataille, faut pas prendre non plus la police scientifique et les moyens d'expertise comme étant absolument infaillibles. Parce que tout est faillible. On a déjà vu des ADN qui étaient absolument celui de l'accusé et qui finalement n'avaient pas été prélevés au bon endroit, au bon moment, etc. Bon, il y a de la littérature là-dessus, mais dans l'ensemble, c'est beaucoup plus fiable. Cela dit, je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire dans une affaire Dominici ou Cesnec. Il n'y a pas de cadavre. Cesnec, il n'y a pas de cadavre. Et Dominici, il n'y a pas de preuves matérielles. Il n'y a pas. Voilà. Alors, est-ce qu'on aurait retrouvé de l'ADN sur ces malheureuses victimes? Peut-être, mais j'en sais rien. Là, c'était la psychologie qui. Enfin, une espèce de psychologie qui a tenu lieu de raisonnement. Voilà.
Conclusion, l'erreur est humaine, c'est triste pour l'accusé, mais l'erreur est humaine et...
Ah ben oui, c'est pour ça qu'il y a des erreurs judiciaires, c'est pour ça qu'il y a des recours en révision qui sont possibles, qui sont rarissimes d'ailleurs, mais c'est pour ça que juges qui jugent, comme avocats qui défendent, comme avocats généraux qui poursuivent, doivent s'assurer du maximum d'éléments pour que ceux qui ont à décider aient tous les éléments. Ouais. Le doute, le doute, le doute... Avez-vous l'ombre d'un doute?
Merci beaucoup, Philippe Arbouche. Fin de cette édition de L'Audience est ouverte, que vous pourrez réécouter, je m'empresse de vous le rappeler, sur www.radiorentiel.fr. On se retrouve bien évidemment le mois prochain et nous évoquerons les grands procès politiques. À très bientôt.
À bientôt.
Ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans.